Merci à vous d'être venu déjà. Ça fait vraiment plaisir de voir du monde ici, surtout pour Bruno. Je vais présenter Bruno rapidement. C'est mon collègue de travail, puisqu'on est tous les deux au service communication de la mairie. Et on a tous un violon dingue. Le sien, c'est écrire. Ça fait des années qu'il écrit, qu'il gratte en silence, tout seul, de son côté. Il a fait des nouvelles. Il a fait des romans, 4, c'est ça ? Mm-hmm. Et 09 est le premier publié. On va partir du début. Donc ce roman, il date en fait de
2006-2013,
tu t'es endormi voilà. En route ?
Non. Comme tu as dit, donc c'est le quatrième que j'écris. Hein. J'ai commencé à écrire en 2003. Donc j'ai essayé de m'en tenir à peu près à un par an, donc 2003, 2004, 2005. Donc le quatrième, donc c'était celui-là, que j'ai commencé en 2005 et que j'ai fini une première version en juillet 2006. Ça correspondait à quelques jours près à la date de l'ouverture de la librairie, qui date de début août. Et je me souviens, enfin j'ai pensé à ça hier d'ailleurs, c'était pas du tout préparé, que quand, donc à l'été 2006, à la fin des vacances, on a vu que la librairie était ouverte et qu'on y est venu, hein, qu'on a découvert cette librairie, je me suis dit j'aimerais bien un jour venir signer un livre ici. Il a fallu 7 ans, mais enfin on y est arrivé. Bon, après, je suis parti sur un autre manuscrit après celui-là. Je l'avais mis un petit peu de côté.
Et pourquoi?
Parce que, comme sur les premiers, j'avais envoyé des éditeurs, j'avais pas eu de retour. Enfin, voilà. Donc, je voulais continuer quand même à écrire. J'ai parti sur le cinquième. Et puis là, je me suis dit, il y a quelques mois, enfin, l'été dernier, à peu près, je me suis dit quand même, celui-là, j'aimerais bien aller au bout. J'aimerais bien, qu'ils sortent. Enfin, ça m'embêtait quand même d'avoir des manuscrits qui aboutissaient pas. Donc voilà, je l'ai repris à la fin 2012. Donc, il est sorti en février 2013, donc il y a 4 mois.
Ah, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as commencé en 2005-2006. Mm-hmm. Tu l'as laissé un petit peu en sommeil, mais entre-temps, tu as été rattrapé par une grosse actualité.
Voilà.
Est-ce que tu peux... 09, c'est quoi ? C'est quoi l'histoire ?
Alors, 09, ça raconte... Alors, 09, c'est pour l'année 2009, en fait, hein, mais c'est aussi... comment dire, le principe de 0 et de 9, hein, repartir à 0 et refaire du 9. Il y avait aussi cette idée-là, en plus de 2009. Et quand je l'ai écrit, donc c'était en 2006, donc 2009, c'était encore, même si c'était le futur très proche, ça n'était pas encore advenu, évidemment. Et l'histoire, en fait, le départ de l'histoire n'est pas en 2009, mais plutôt au milieu du 21e siècle, donc entre 2040 et 2050, à peu près. C'est un échange de lettres, donc, entre deux femmes, donc, qui ont un peu plus d'une cinquantaine d'années, donc, qui sont nées début des années 90, on va dire, qui racontent deux réalités qui sont un petit peu différentes, alors qu'elles sont censées vivre à la même époque. Et, ce qui a le point de divergence dans leur histoire, c'est l'année 2009. Et c'est cette année-là qui a eu, en fait, un gros mouvement social, on dira, qui a dégénéré, et qui, pour l'une, a bien fini, et pour l'autre, a très mal fini. Donc, le principe, c'est une uchronie dans le sens où on part d'un point historique et on le fait diverger, donc on donne deux directions différentes. Et c'est aussi une dystopie, c'est-à-dire, une dystopie, c'est le contraire d'une utopie, c'est en gros une utopie qui se passe mal, pour une des deux narratrices. Ça se passe mal. Et le principe, c'est un roman épistolaire.
Est-ce que tu peux décrire un petit peu les chemins qu'ont pris leurs mondes respectifs ?
Alors, pour l'une des deux narratrices, donc c'est un roman épistolaire donc à deux voix, deux narratrices, donc une qui s'appelle Gaïa et l'autre qui s'appelle Soledad. Elles ont vécu toutes les deux les espèces de mouvements sociaux qui violents, enfin, que l'une appelle donc 09, donc pour ce que je disais tout à l'heure, l'idée de 0 et de 9. Et que l'autre appelle grand chaos, dans le sens où ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Voilà. Donc pour l'une, les années entre 2009 et le moment où le récit commence, c'est-à-dire entre 2040-2050, ont été des années de très gros changements au niveau de la société, au niveau individuel, où il y a eu des tas d'expérimentations qui se sont faites, enfin une espèce de bouillonnement créatif, on dira. Et pour l'autre, par contre, comme le mouvement de départ a été réprimé, elle vit dans une période qui est très dure, très violente, où comment dire, où il y a eu une espèce d'effondrement général de la société et où chacun survit un petit peu comme il peut et avec une, comment dire, une menace permanente qui plane sur eux, où en gros c'est chacun contre tous, quoi. Voilà. Le premier point, c'est plutôt tous ensemble, on change, on essaye de changer, parce que tout se passe pas si bien que ça, hein, c'est pas non plus les bisounours. Tous, on essaye de changer la société, on essaye de faire quelque chose ensemble, avec plus ou moins de succès, mais au moins on essaye. Dans l'autre cas, c'est un petit peu la loi de la jungle, qu'on pourrait dire. Et, voilà. Et donc, elles échangent ces lettres-là. Et les deux récits qu'elles font sont complètement divergents, quoi. Enfin, on se rend compte que ça décrit deux choses totalement différentes.
Et pourquoi la forme de épistolaire, alors?
Alors, parce que j'avais envie, mes précédents romans, en général, il y avait un narrateur, alors qui était soit un personnage du roman, soit un narrateur extérieur, quoi. Hein, mais qui était en général un personnage masculin, parce que bon, c'était aussi ce qui était plus facile pour moi. Là, j'avais envie de partir de deux personnages, au début d'un personnage féminin, puis après, assez rapidement, j'ai voulu en faire deux, décalés, mais tous les deux des personnages féminins. Et je me disais quelle était la forme la plus intéressante pour faire ce récit-là. Est-ce que c'était un récit chronologique classique avec un début, un milieu, une fin? Est-ce que c'était autre chose? Enfin voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le roman épistolaire. Alors j'avais quelques exemples de formes, soit épistolaires, soit avec des récits alternés, hein, puisque bon, un roman épistolaire après tout, c'est jamais que un récit alterné à deux voix, un chapitre l'un, un chapitre l'autre, etc. Et c'est une forme de récit que j'aimais beaucoup, notamment certains romans de Nancy Houston sont conçus comme ça. Et j'avais envie d'essayer cette forme-là.
Et t'as pas choisi la facilité non plus, enfin, je m'avance peut-être, mais puisque c'est deux femmes, c'est pas se poser une difficulté supplémentaire en tant qu'auteur ou...
Bah si, parce que forcément. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que je pense que ce que décrit le livre, au-delà de l'aspect gros changements sociaux, gros changements économiques, changements politiques aussi, bouleversements, c'est aussi d'une certaine façon la fin du patriarcat et aller vers un 21e siècle qui serait plus féminin que les siècles précédents, quoi, c'est-à-dire où les valeurs féminines, où les grandes orientations, les choix qui sont faits sont plus portés par des femmes. Et donc ça me semble intéressant d'avoir une génération. Et puis j'avais été aussi marqué dans mes lectures avant de commencer le roman par un livre de prospective qui n'était pas du tout un livre de fiction qui s'appelle 2100 récits du prochain siècle, qui date de 1990, donc il commence à dater, qui est de Thierry Godin, qui était très intéressant et qui lui aussi partait sur cette hypothèse-là que le 21e siècle verrait émerger les valeurs féminines. Voilà. Et ça m'intéressait de creuser cette piste-là. Alors c'est vrai que c'est un défi, mais je pense que ça permettait aussi une mise à distance par rapport aux personnages, parce que plus les personnages étaient éloignés de moi, moins j'aurais eu tendance à y mettre des éléments autobiographiques, ce que j'avais pu faire dans les précédents récits. Donc ça permettait aussi de m'éloigner de mon histoire à moi et passer à autre chose.
Pourtant, bien que tu t'en défendes pour te connaître un petit peu, tu as quand même mis beaucoup de toi dans le roman. Oui. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu ton optimisme envers les femmes, ton féminisme.
Oui, ben c'est sûr que forcément j'y mets du mien. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas un essai scientifique, c'est pas voilà. Donc il y a forcément un investissement personnel qui est important. Sinon c'est quelque chose de complètement froid et désincarné. En fait c'était pas du tout le but. Mais oui, je pense que ce que j'ai mis de moi, c'était un petit peu la vision que j'ai du patriarcat actuel, quoi, en fait, de ce qu'il en reste. Il en reste encore, malgré tout, on n'en est pas sorti, hein, même si ça bouge. Hein. Voilà, les relations, par exemple, que les narratrices ont avec les hommes, que ça soit des liaisons qu'elles ont eues ou des expériences malheureuses, même, on peut dire, qu'elles ont eues, c'est quelque chose que je me dis, moi, en tant qu'homme, auquel j'essaye d'être attentif et d'éviter, c'est-à-dire de respecter suffisamment aussi les femmes pour pas avoir ce type de comportement. Donc c'était aussi un reflet avec ce que je voudrais ne pas être, quoi, aussi. Après, oui, il y a d'autres éléments autobiographiques.
Si je prends la place des hommes dans le roman, c'est soit des souvenirs d'amour passé, c'est soit des objets, soit des violeurs. Enfin, t'es pas tendre non plus. Tu vas un peu fort, quoi.
Ben, c'est vrai que sur les deux narratrices, au moment où elles parlent, quoi, hein, il n'y a pas du tout d'hommes dans leur environnement, enfin, sauf si un moment où. Il n'y a pas de personnage masculin important dans le récit, quoi. Ils sont tous, je dirais, en arrière-plan, quoi. Hein.
Et le deuxième volet, c'est que souvent revient quand on discute l'idée de décroissance, l'idée que l'avenir passe par la décroissance.
Ben que c'est une voie possible, en tout cas, parmi d'autres, mais oui.
C'est l'une des voies dans le roman.
Oui, oui, oui. Oui. Ben, ça aussi, oui, ça, c'est sûr que ça, c'est proche de mes...
Qu'est-ce qui se passe au niveau environnemental dans 09?
Alors, j'ai essayé de pousser un petit peu au maximum les curseurs sur la situation actuelle, en termes de dérèglement climatique, en termes de raréfaction des ressources, hein, voilà. Là, ça, c'est valable d'ailleurs dans les deux parties, hein, c'est relativement proche. Dans les deux cas, l'environnement est très dégradé par rapport à ce qu'il est maintenant, les ressources sont de plus en plus rares. Simplement, dans un des deux cas, celui qui a plus ou moins bien tourné, on dira, il y a eu de très gros efforts qui ont été faits, des chantiers qui ont été lancés, voilà, beaucoup de choses qui ont été faites pour essayer de... pas de rétablir ce qui était avant, parce que ça, de toute façon, c'est impossible. Il n'y a pas de nostalgie à avoir par rapport à un passé idéalisé, mais un petit peu de remettre en état ce qui peut l'être et de préserver ce qui n'est pas encore dégradé. Disons, la première partie serait, dans le meilleur des cas, si dès maintenant on faisait les efforts nécessaires, qu'est-ce qu'on pourrait arriver à préserver et à sauvegarder? Et dans le pire des cas, si on continue comme maintenant à faire n'importe quoi et à piller les ressources, à rester dans la surconsommation telle qu'on est maintenant, on se prépare des décennies très dures, dans 30 ou 40 ans, un combat quotidien pour l'eau, pour les ressources, pour tout, quoi.
C'est des problèmes qui se sont posés, ça, en 2008. Le 09 que tu imaginais déjà en 2006, il y a beaucoup de points communs avec la crise qui a débuté en 2008. Comment tu as accueilli ça? Alors, toi, tu avais déjà écrit le premier jet de ton roman.
Oui. Je me suis amusé un petit peu, une fois qu'il est sorti, à lister, en fait, tout ce qui s'est passé depuis 2006. Plus ou moins en parallèle avec les thèmes du roman, quoi. Et c'est vrai que j'étais surpris de, en listant, la crise financière de 2008-2009, évidemment le printemps arabe qui, par certaines formes, ressemble un petit peu à ce que j'ai mis dans le livre, les catastrophes écologiques aussi qu'il y a pu y avoir, Fukushima, enfin bon. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Alors peut-être qu'on aurait pris 6 autres années un peu plus tôt, on aurait trouvé beaucoup aussi, mais là, je trouve quand même qu'entre 2006 et 2012, il y a eu une accélération de ce qu'on pourrait appeler l'entropie, quoi, hein, c'est-à-dire que tout part dans tous les sens et que le point d'équilibre, si équilibre il y a, il est de plus en plus éloigné. Rien ne s'est passé comme je l'avais prévu, mais après tout, c'était une fiction, hein, donc je n'attendais pas non plus à ce que ça se passe comme ça, mais il y a beaucoup de choses de façon éparpillée qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut trouver dans le roman, quoi. Donc, on n'est pas encore en 2040, donc on ne sait pas encore si jamais on y arrive, nous. On peut se le souhaiter, mais bon, voilà. Voilà, il y a plein d'éléments qui se sont passés sur les 6 dernières années, qu'on peut retrouver dans le roman, sous une forme différente, bien sûr, mais des éléments d'un puzzle, enfin, quelque chose d'un peu éclaté, qui là, en fait, est regroupé dans un moment un petit peu symbolique, qui est cette année 2009, donc qui a été un peu condensé, quoi, quelques mois, mais comme on peut avoir connu, enfin pas nous, mais enfin comme il est arrivé en 36, enfin à la Commune de Paris ou en 36 ou en 68, un moment où en quelques semaines il se passe plus de choses qu'en 10 ans, enfin une espèce de déflagration sur un temps très court, quoi, voilà. Donc il s'est pas passé ça, mais il y a eu beaucoup de choses qui, par certains points, y ressemblent.
Tes héroïnes, elles écrivent pour se libérer l'une et l'autre, ou parce que le présent est trop dur à supporter, ou parce que l'avenir, ou parce qu'il n'y a pas d'avenir. Ouais. Toi, pourquoi tu écris ?
Pourquoi j'écris ? Bah, parce que j'aime ça.
Tu as 1000 euros, du coup.
Non, parce que j'aime ça, ouais. Parce que quelque chose que j'ai toujours fait sous différentes formes, disons depuis que je suis ado, quoi. Alors j'ai jamais réussi à écrire pour moi, style journal intime ou enfin, ce qui sera aujourd'hui des blogs personnels, quoi, on dira. Donc si on n'écrit pas pour soi, a priori on peut penser qu'on écrit pour être lu, quoi. C'est un peu le corollaire. On est, enfin du moins pour parler pour moi, je suis porteur de différentes histoires, de personnages, d'atmosphères, de récits, et faut arriver à les faire sortir. Alors après, comment, sous quelle forme, à quel moment, ça c'est une autre question, mais oui, c'est ni une contrainte, ni une obligation, c'est pas alimentaire, voilà, non mais... Donc c'est un plaisir, quoi, comme il y en a qui aimeraient faire de la musique, ou qui aimeraient faire du cinéma, ou qui... d'autres choses, quoi, c'est... Et puis parce que c'est une activité, on dirait solitaire, quoi. C'est, et puis ça demande peu de moyens, quoi. Il suffit d'avoir de quoi écrire, du temps, voilà. ce dont je me rends compte le plus et qui est le plus difficile, c'est ça. C'est arriver à prendre le temps, arriver à se dégager du temps. Voilà. Alors j'ai beaucoup lu des témoignages d'écrivains qui expliquent comment ils font. Ouais.
Toi, t'as 3 enfants, un travail,
ouais.
tu fais la lessive.
Ouais, non mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et voilà. Alors certains disent il faut écrire tous les jours, il faut écrire. Stephen King, il disait même qu'il écrivait tous les jours, sauf le jour de Noël. Puis après, il précisait qu'en fait c'est pas vrai, il écrivait même le jour de Noël. Donc bon, il y en a qui disent que c'est ça qu'il faut faire pour y arriver. Moi non, parce que soit je suis pas assez organisé pour ça, soit j'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de bloquer du temps, une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin, dans l'idéal, et de le faire de façon intensive, quoi. De commencer, de finir, enfin, de voir avancer aussi. Parce que je me dis, 1 heure par jour, par exemple, ben, c'est pas beaucoup, quoi. Le temps de s'y mettre, le temps de rentrer dans le truc, et puis, une fois qu'on y est bien, se dire, ah ben non, il faut s'arrêter parce que c'est fini, ça, je pense que j'en suis pas capable. Donc là, pour l'instant, ben, j'essaye de, enfin, en ce moment-là, que le livre est sorti, j'ai pas du tout eu le temps de m'y remettre, mais si je m'y remets, voilà, il faut que je me bloque minimum une semaine, je dirais. Ben d'ailleurs, quand je l'ai repris fin 2012, j'avais pris 5 jours, je m'étais mis au vert, loin de la maison, tout seul et tout, et là ça, j'ai pu avancer, quoi.
Ouais. Tu parlais des choses que tu portais, des atmosphères que tu voulais faire partager sur ton site internet www.brunocolombari.fr. Il y a toute une section qui est consacrée à 09, dont une partie sur tes influences et tout ce qui tourne autour du rock.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait un mini site aussi. Enfin, vous, en allant sur le site, vous trouverez le lien sans problème. Alors mes influences, ben, ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc il y avait eu des influences dans le domaine de la fiction. Alors dans le domaine de la fiction, quand j'ai influence, bon. Je ne me compare ni à ces auteurs-là, ni à la prétention de...
Pas encore, mais c'est à venir.
Voilà. De faire ce qu'ils font, mais c'est dans le sens où c'est des auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont nourri, qui m'ont influencé. Donc il y a Paul Auster, et notamment un Paul Auster qui a des points, beaucoup de points communs avec celui-là, c'est Le Voyage d'Anna Blum, qui est aussi une dystopie, hein, donc... qui se passe aussi dans une période très noire, très dure, et avec une narratrice, qui écrit une lettre d'ailleurs, dont la lettre fait toute la longueur du roman. Donc Nancy Houston aussi, pour les récits alternés, elle a dans pas mal de ses romans, elle alterne en fait plusieurs voix, alors des fois 2, voire même 10, 12, en fait, beaucoup plus loin. Un roman aussi qui m'avait beaucoup plu et dont l'adaptation au cinéma était très intéressante, c'est De beaux lendemains de Russell Banks, qui lui raconte la même chose avec 5 narrateurs différents et donc 5 points de vue différents. Et donc là aussi, avec un point focal dans le roman, et puis toute une histoire qui se développe autour en cercle concentrique, donc alors là, avec une structure narrative qui est très 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 complexe, et que Atom et Goyan, qui est adapté au cinéma, a réussi à bien rendre. Et après, il y a des influences hors fiction, donc je parlais de 2100, récit du prochain siècle, il y a, ah oui, dans les fictions, j'avais oublié, mais qui est sorti après le premier jet du roman, c'est La route de Cormac McCarthy, donc qui est aussi vision de l'avenir assez sombre. Et sinon, donc dans tout ce qui est pas roman, les livres de Naomi Klein, et notamment La stratégie du choc, qui est sorti lui aussi en 2007, je crois, quelques temps après. Oui, un essai aussi qui s'appelle Homo disparitus, qui est c'est intéressant, qui part de l'hypothèse que si l'espèce humaine disparaissait brutalement, enfin, comme on dit brutalement, c'est en l'espace de quelques mois, quoi, et pas... Hein, qu'est-ce qui se passerait au niveau de l'environnement, des bâtiments, toutes les structures à la fois que les hommes ont construites et l'environnement naturel. Par exemple, que deviendraient les centrales nucléaires s'il n'y avait plus personne qui s'en occupait, que deviendraient les bâtiments une fois qu'ils seraient inondés, fissurés par le gel, enfin, etc. Ça, c'était assez intéressant.
Des films, peut-être.
Et dans les films, oui, alors deux films, notamment de Terry Gilliam, Brasil. Alors, Brasil, par rapport à sa façon de décrire des rêves aussi, hein, qui fonctionne beaucoup sur l'évasion par le fait de s'échapper d'une réalité qui est très dure par le rêve. Et puis le côté, Brasil est une adaptation de 1984 d'Orwell, donc le côté société totalitaire. Et L'armée des douze singes aussi, de Terry Gilliam, qui est une adaptation de La jetée de Chris Marker, qui là est une vision aussi... futuriste, mais avec des conséquences, avec des retours dans le passé et un enchaînement de cause à effet entre le passé et le futur. Voilà. Il y en a d'autres, enfin, si vous allez sur le site, vous verrez l'article complet, parce que là, je les ai pas tous en tête, mais voilà, il y a toute une série d'influences.
Et aujourd'hui, tu te sens plus proche de Schoederlos de la Closse ou de George Orwell?
Non, plutôt Orwell, quand même. Oui, j'ai lu beaucoup Orwell, enfin, c'était... aussi bien ces textes qui sont très intéressants, notamment les essais, articles et lettres là, qui ont été publiés il y a quelques années. Et Orwell a eu une réputation qui est tout à fait injustifiée, parce que manque de chance, et il a publié essentiellement La ferme des animaux en 1984, donc en 45 et en 49, et il est mort juste après, à peu près 50 ans. Même pas, 47 ans. Et donc, il a jamais eu le temps vraiment d'expliquer quelle était sa démarche. Alors, La ferme des animaux un peu, mais 1984, non, puisque il est mort quelques mois après sa publication. Donc, en plus, il a même pas profité du succès de 1984, alors que ça a été évidemment un énorme succès, alors que lui, il est mort, bon, il était pas pauvre, mais enfin, il était quand même en situation assez précaire.
Et... Fais attention.
47. Voilà. Mais oui, Orwell, oui, c'est plus proche de ça.
S'il pouvait y avoir un film tiré de 09, tu verrais qui pour le réaliser et dans les rôles principaux? Tiens, réfléchis. Me dis pas que tu n'as pas réfléchi.
C'est une proposition. Alors ouais, sur les adaptations des œuvres littéraires au cinéma, j'ai toujours un peu du mal parce que d'ailleurs, on n'est pas d'accord là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Je trouve souvent qu'elles sont décevantes parce que soit elles sont trop proches du livre, et bon, à la limite, on se dit à quoi bon, si c'est une illustration du livre, soit ça part dans tous les sens, et bon, on peut penser que on peut se dire à ce moment-là que le propos de l'auteur a été déformé, trahi. Et les rares fois où j'ai vu des livres qui étaient bien adaptés au cinéma, ben, il y avait De Beau Lendemain, de Russell Banks, mais parce qu'Atom et Goyan en a fait autre chose. Enfin, il est parti de la trame de l'histoire, mais il a apporté quand même quelque chose de différent. Et c'est à peu près tout. Hein. Oui, alors le Brasil de Terry Gilliam par rapport à 1984, mais là aussi il a beaucoup beaucoup transformé. Mais sinon, du coup, j'ai pas répondu à ta question. Mais...
Donc non, mais Atom et Goyan, Terry Gilliam, ok.
Ah oui, c'est
ça
sûr
va.
Que si ils sont, ils veulent bien. Et avec qui? Alors là, franchement, c'est des actrices que j'aime bien. Bon, après... Naomi Watts.
Oui, voilà.
Voilà, Mia Kirchner.
À moins que vous ayez des questions tout de suite, je propose que tu nous lises un extrait.
le premier extrait, donc c'est le premier chapitre, la première lettre donc de Soledad. Donc Soledad, c'est celle qui vit dans la partie noire, quoi, on dira, de l'histoire, hein, qui survit. Donc c'est le passage où elle raconte comment elle va trouver la première lettre donc de l'autre personnage. Elle était là, cette boîte fixée à un poteau en métal à 20 mètres de la ruine. Je me suis approché lentement en retenant mon souffle. De quoi j'avais peur? Qu'elle s'en aille en courant, qu'elle éclate en dispersant des bouts d'acier jaune dans toutes les directions, ou qu'elle disparaisse brusquement comme un mirage venu du passé. Je ne sais pas. Je crois que j'avais peur de ce qu'il pouvait y avoir dedans. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas me croire, mais dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle n'était pas vide. C'est un modèle qui s'ouvre par-dessous avec une trappe. Normalement, il faut un passe pour l'ouvrir. Évidemment, je n'en avais pas. Mais en m'accroupissant, je l'ai aperçu enfoncé dans la serrure. Il suffisait de le tourner. J'ai approché ma main, puis je l'ai retiré d'un coup. Qu'est-ce qui allait sortir de là-dedans? La boîte était peut-être infestée de bestioles dangereuses, comme celles qui vivent sous les rochers. Tu ne peux pas imaginer les sortes d'insectes qu'on a partout en ce moment. Des genres de scorpions qui résistent à tout, même au feu, capables de te tuer en moins de 10 minutes. Des araignées toutes petites, un peu comme les veuves noires, qui se glissent sous les vêtements et qui provoquent des brûlures insupportables. Il paraît que c'est à cause des pesticides qui imprègnent les sols. Des milliers d'espèces ont disparu, mais je peux te dire que celles qui ont réchappé à ça semblent sortir tout droit de l'enfer. En cherchant autour de moi, j'ai fini par trouver un bâton avec une sorte de fourche au bout. En m'y reprenant plusieurs fois, j'ai réussi à accrocher le passe et à le faire tourner jusqu'à ce que la trappe s'ouvre. Et c'est là que j'ai vu ta lettre. Une enveloppe tombée sur les herbes jaunies. Une enveloppe marron, apparemment neuve, en papier opaque, comme on en faisait encore au début du siècle. C'était ce à quoi je pouvais le plus m'attendre. Une enveloppe tombée d'une boîte aux lettres, tu parles d'une surprise. Et pourtant, je la regardais comme un explorateur qui découvre les ossements d'un animal monstrueux. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette lettre, dans cette boîte venue de nulle part? À qui était-elle adressée? Je l'ai retournée pour voir s'il y avait quelque chose écrit dessus, une adresse, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Donc ça, c'est le premier passage. Et le deuxième, donc, c'est donc Gaïa, qui vient de trouver donc la réponse de Soledad. Donc la première lettre, celle que Soledad trouve, c'était Gaïa qui l'avait écrit. Soledad lui répond et Gaïa trouve sa réponse.
Est-ce que tu peux dire comment elles s'échangent, ces lettres, en fait? Alors, on a oublié cet élément.
Oui, le tout début, puisque comme elles vivent à des endroits différents et dans des circonstances totalement différentes, en fait, j'avais décidé que l'échange de lettres, il se fasse d'une façon un petit peu, comment on peut dire ça, mystérieuse, enfin pas forcément rationnelle, quoi. Hein, voilà. Mais après, on n'y revient plus du tout. Enfin, c'est pour installer le dispositif au début. Alors, donc la première lettre, elle est découverte, donc ce que je viens de lire, dans une boîte aux lettres. Mais sauf que cette boîte aux lettres, elle se trouve au milieu de la forêt, près d'une ruine, enfin un endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver. Et donc la deuxième, donc celle que Gaïa trouve, la réponse de Soledad, elle la trouve sur une corde à linge suspendue avec des pinces. Voilà. Quand je me suis approché, j'ai vu que c'était bien une enveloppe, pas tout à fait comme celle que je t'ai envoyée. Un peu plus petite, plus allongée, un peu plus claire. Je l'ai décrochée avec précaution, je l'ai tournée pour m'assurer qu'il n'y avait rien d'écrit des deux côtés. Et je suis rentré dans la maison pour l'ouvrir. Ça faisait si longtemps que je n'avais plus ouvert d'enveloppe. J'ai presque le même âge que toi, et non de moins, mais je me souviens qu'on en recevait encore quelques-unes quand j'étais une petite fille. C'était surtout les vieux qui nous écrivaient. Pour eux, l'ordinateur et Internet, ce n'était même pas la peine d'y penser. Ils vivaient presque comme des débranchés, sauf que ce n'était pas par choix de vie, plutôt par déphasage technologique. Des lettres dans des enveloppes, j'ai dû en écrire une dizaine moi-même, je ne sais plus. C'est tellement loin tout ça. Ça nous paraissait si long. Tu écris un message, tu colles un timbre, tu l'envoies, il faut un ou deux jours pour que ton correspondant le reçoive, et encore un ou deux jours pour que sa réponse te parvienne. Parfois, ça n'était une semaine. Autant dire une éternité. Quand mes parents sont morts au troisième jour de ce qu'on n'appelait pas encore le 09, mais le grand chaos, j'ai pu sauver quelques affaires à eux, juste avant le pillage de leur maison. J'ai trouvé des vieux classeurs à anneaux remplis de lettres. Comme elles avaient été conservées à l'abri de la lumière et de l'humidité, elles n'avaient pas trop souffert du temps. Ça racontait comment leur liaison avait débuté 30 ans plus tôt. J'ai trouvé ça très beau, très triste aussi. Lire comment ils s'étaient rencontrés juste après leur séparation définitive, c'était découvrir le début de leur histoire juste après la fin. Ces classeurs, je ne les ai plus maintenant, je les ai perdus 3 mois plus tard. Heureusement, j'avais pris la précaution de tout numériser. Mais ce n'est plus pareil. Le contact avec ce papier du siècle dernier a disparu, et il me manque encore. Quand j'ai déchiré l'enveloppe et que j'ai sorti les 5 feuilles qu'il y avait dedans, c'est comme si je faisais un rituel étrange, comme si de ta lettre allait sortir le génie de la lampe d'Aladin. Fais 3 vœux et je les exaucerai. Tu te souviens de ça? Si j'avais 3 vœux à faire. Bien sûr, ce serait d'abord de retrouver Iriam. Je le cherche depuis près de presque 20 ans et j'ai toujours espoir qu'il soit en vie. Mais je te parlerai de lui une autre fois. On a tellement de choses à se dire, toi et moi. Mon second vœu, ce serait de revenir au début de l'unification. C'était si fort, tout était possible. L'avenir semblait ouvert à l'infini. Et c'était à nous, à notre génération, les derniers nés du 20e, qu'il était donné de vivre ça. Je dois avouer que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas donné tout ce que j'aurais pu. Regretter le passé ne sert à rien, bien sûr. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas comme ça, sûrement pas. Mon troisième vœu, je ne sais pas trop. Peut-être te venir en aide tant que tu as l'air désespéré. Je ne sais pas où tu vis, je ne reconnais pas ce que tu me décris. En lisant tes lignes, j'ai l'impression d'écouter un de ces expérimenteurs, ceux qui testent les drogues d'autrefois pour se plonger dans des transes. Il paraît que c'est souvent horrible. Heureusement qu'ils sont strictement surveillés, parce que parfois ils semblent prêts à tout, même à se mutiler. J'ai lu des ouvrages là-dessus, franchement ça fait peur. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Tu sembles vivre à l'intérieur d'un cauchemar, dans un endroit privé d'expérience, complètement muré. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton.
Est-ce qu'il y a une énigme?
Dans l'histoire, tu veux dire?
Oui.
Non, il n'y a pas vraiment d'énigme. Ben, si, fait, l'énigme de départ, c'est pourquoi elles sont dans...
Oui,
fait, comment il y a cet écart entre les deux, quoi. Oui, on peut dire ça, et d'ailleurs, on va raconter la fin, mais
il y a un twist. Il y a ce qu'on appelle un twist.
Voilà, il y a un dénouement qui donne...
La question, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'elles correspondent, c'est pas l'énigme, c'est ça?
Oui, pour comment elles se transmettent, ces lettres-là.
Qu'est-ce qui fait que cette correspondance démarre? Elles se connaissent?
Non, elles se connaissent pas du tout.
C'est ça, voilà. D'accord.
Pourquoi il y a cette correspondance? Qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent s'échanger ces lettres alors que normalement elles ne pourraient pas puisqu'elles sont dans deux...
Il y a le moyen, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'une décide de décrire à l'autre et que cette...
Alors la première, donc, c'est Gaïa qui écrit la première lettre. Donc ça c'est dit dans le premier chapitre, elle a une raison bien... Mais la première lettre c'est comme une bouteille à la mer, quoi, c'est-à-dire d'accord. Elle n'a pas de destinataire particulier, elle la lance en espérant qu'elle soit lue, voilà. C'est le principe d'une bouteille à la mer, sauf que là, c'est pas dans une bouteille et c'est pas à la mer. Enfin, sinon, c'est la même idée. Quoi.
Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Est-ce qu'elles vivent sur deux planètes différentes ou sur deux planètes mentales
différentes? Ah,
Non, c'est pas du tout sur deux planètes différentes. Enfin, c'est vrai que ça pourrait ressembler comme ça de la science-fiction, par exemple. Ça n'est pas. C'est vrai que quand il a fallu définir le genre, notamment quand j'en ai mis un exemplaire en dépôt à la médiathèque, ils m'ont dit dans quelle catégorie on le met. En gros, c'était est-ce que c'est de la littérature générale, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est du polar, est-ce que c'est quoi, quoi. J'étais bien en peine de leur répondre. Mais c'est un, comment dire. C'est pas vrai. Oui, c'est un roman, voilà. Pas toujours essayer de mettre des cases, voilà. J'ai pas voulu le tirer vraiment dans la science-fiction. Ou alors c'est une science-fiction quand même très réaliste, quoi, je dirais. Hein. Disons qu'il y a un argument, effectivement, qui peut ressembler à quelque chose de surnaturel ou de SF, mais c'est pour les besoins de la narration, quoi, voilà.
Donc ce sont deux mondes mentaux plus que deux mondes physiques.
Ben, elles sont quand même dans deux...
En tant que ton avocat, je te conseille de pas répondre à cette question.
C'est qui est bon. Maman.
Voilà. Joker.
Bon, on lira. Bravo, Jérémy. Bien sûr.
On était quelques-uns, pas nombreux, là, à avoir assisté à la présentation de Brut et de...
Oui, de Libre Fille.
Moi, je vois une analogie aussi, là. Hein,
oui. Alors, Dalibor Friou, c'est plus de l'anticipation.
On retrouve.
Et d'ailleurs, il est sur la même période, lui, sur le milieu du XXIe siècle.
La même problématique.
Oui. Comme si c'était une échéance qui comment dire, comme si le monde dans lequel on vivait aujourd'hui était tellement instable et tellement précaire que déjà se projeter pour 2040 ou 2050, c'est quand même pas, objectivement, c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans, dans 25-30 ans, quoi. Mais, on se dit, à la limite, on peut essayer d'imaginer, puis après, c'est peut-être aussi une limite qui tient à notre propre vie, c'est difficile de se projeter au-delà de ce qu'on est. Voilà. Mais, comme si c'était très compliqué d'aller au-delà de 30 ou 40 ans plus tard, quoi. Et encore que, je crois que c'était peut-être pas très facile il y a 40 ans d'imaginer ce que serait l'an 2000 ou 2010, mais je crois que c'est encore plus difficile aujourd'hui d'imaginer ce que sera 2040, quoi. Et au-delà, encore, c'est même pas la peine, quoi. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu une borne, quoi. Quelque chose comme ça.
Est-ce que ce qui les différencie, c'est que le sentiment de peur peut être plus d'un côté que de l'autre?
Oui, confiance d'un côté, parce que ben, c'est un peu l'histoire aussi de la satisfaction des besoins primaires, hein, comme on dit, notamment pour les enfants, quoi, ou même pour tout le monde, hein, à partir du moment où on a un toit, on a de quoi se nourrir, on est dans un environnement relativement sécur, ben, on peut penser à autre chose, on peut avoir de l'imagination, de la créativité, et on peut dépasser les craintes ou les peurs qu'on a vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis des autres. Et par contre, dans l'autre cas, ben, elle est livrée à elle-même, elle est constamment sous la menace de tas de choses, et on le voit dans l'extrait que j'ai lu, ou même ne serait-ce que d'aller regarder ce qu'il y a dans une boîte et de l'ouvrir, ça crée un sentiment de peur, parce que il y a toujours... tout est perçu comme une menace, quoi.
Oui.
Et je pense que ce qui rend aussi les sociétés violentes et conflictuelles, enfin, etc., ben c'est la peur, quoi. Ça, on l'a vu dans les régimes totalitaires qui entretenaient cette peur et faisaient en sorte qu'elle soit toujours présente et qu'elle soit toujours là. Et voilà, plus les gens ont peur, plus ils sont dangereux, et c'est quelque chose qui s'entretient, quoi. Et voilà, après, bon, on va pas trop avancer dans les détails, mais j'avais l'idée de deux histoires qui divergent au début, mais qui s'influencent l'une l'autre. Et bon, vous verrez, mais il y a c'est un peu des vases communicants, quoi. Hein, c'est-à-dire que la confiance que l'une donne à l'autre et le pessimisme, mais la peur ou l'angoisse que la deuxième renvoie vers la première, quoi. Voilà, il y a une tendance qui va s'équilibrer, ben, sinon il n'y a pas d'histoire, parce que si on a d'un côté quelqu'un pour qui la vie est terrible, et puis de l'autre quelqu'un pour qui la vie est super, bon ben voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est fini, quoi, il n'y a rien, plus rien qui se passe, donc il y a aussi un mouvement entre les deux.
Des similitudes, il y a eu donc quatre manuscrits, entre les différents manuscrits, ou c'est dans le genre,
Non, c'est très différent, c'est très 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 différent. Le premier, c'était 12 juillet, c'était sur raconter l'histoire de différents personnages qui regardaient la finale de la Coupe du Monde de foot en 98. Alors là, la finale était le match était un prétexte, c'était plus pour raconter ce qu'il y avait autour. Le deuxième était, il y avait déjà une dimension futuriste, donc 39 mars, où j'imaginais ce qui se passerait si il y avait une épidémie de grippe espagnole, puisque la grippe espagnole a été il y a eu des recherches qui ont été faites sur des cadavres, notamment de personnes qui sont mortes de la grippe espagnole en 1918, et pour essayer de récupérer l'ADN, enfin, faire des recherches scientifiques sur les restes. Voilà. Et j'imaginais en fait qu'est-ce qui se passerait si ça faisait repartir l'épidémie à notre époque. Donc là, oui, il y a quand même un point commun, on dira. Et c'était basé sur la radio. En fait, il y avait toute une histoire autour de la radio qui envoyait là des messages venant de quelques années plus tard. Et le troisième, 22 novembre, alors là, ça n'avait rien à voir, c'était une histoire autour de l'assassinat de Kennedy, et donc de quelqu'un qui enquêterait aujourd'hui et qui récupérerait des éléments sur cette histoire-là. Mais bon, je peux pas sortir celui-là puisque Stephen King a sorti un roman là-dessus, donc j'ai dit bon bah tant pis, de toute façon je vais pas.
Tu vas pas le faire de l'ombre.
Voilà, c'est fichu. Bon après c'est un sujet qui a quand même été un petit peu utilisé déjà. Non, donc il n'y avait pas vraiment de points communs, et le manuscrit, le cinquième manuscrit qui est en cours, c'est vrai qu'elle n'est pas finie. Là, là, oui, il y avait un peu une retour sur la dimension de, d'une uchronie. C'était imaginer ce qui se serait passé si l'attentat du 8 novembre 1939 contre Hitler avait réussi. Il y a eu un livre qui est sorti sur... donc c'est un type pas du tout connu, enfin, qui est complètement... passé à la trappe, Georges Elser, qui est un menuisier, et qui avait décidé d'assassiner Hitler en 39, et qui a failli réussir à 10 minutes près, quoi. Il y a eu un changement d'horaire dans un meeting de Hitler, dans une auberge à Munich. Et il est parti, en fait, plus tôt, parce que il fallait qu'il reparte à Berlin, au lieu de repartir en avion, il fallait qu'il reparte en train, parce qu'il y a eu brouillard, enfin, un truc vraiment totalement improbable. Il part 10 minutes avant, la bombe qui était programmée explose, ça fait 30 ou 40 morts, ça fait un carnage, mais lui est parti, il a échappé. Qu'est-ce qui se serait passé si le 8 novembre 39, Hitler meurt dans un attentat, alors que la Deuxième Guerre mondiale venait à peine de démarrer, qu'il y avait... Il y avait déjà à ce moment-là pas mal de tensions à l'intérieur des dignitaires allemands, parce qu'il y avait quand même une tendance un peu plus modérée, on dira, que les SS qui déjà envisageaient de le renverser. Et voilà. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est le point de départ.
Tu travailles dessus actuellement?
Je vais le reprendre, voilà. Mais pas en ce moment, mais c'est en cours.
Il y a un point commun quand même, c'est... Les dates, non?
Oui, oui. 12 juillet, 39 etc. mars. Alors 39 mars, c'est une date évidemment qui voilà, n'existe pas, mais qui voilà, et 22 novembre et 09.
Et 09. Voilà.
Oui. Le prochain, c'est.
Alors le titre provisoire, c'est l'aiguilleur, mais je suis pas sûr de rester là-dessus. Donc c'est plus une date. Ah non, j'avais pas mis 39, ouais, j'aurais pu, mais de sortir de ça, quoi. Pas non plus que ça devienne un procédé.
Dernière question. Ben, merci à Lionel de nous avoir accueillis.
Merci à vous. Merci à Lionel.